Quand le pic du Midi sera-t-il inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Réponse avec votre invitée Isabelle Duché.
En avril dernier, le Comité français du patrimoine mondial reconnaissait la valeur universelle exceptionnelle du premier et plus ancien observatoire de haute montagne du monde encore en activité. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Pic du Midi. Désormais, sa candidature est entrée dans une phase déterminante pour une inscription au patrimoine mondial. En quoi consiste cette candidature? Quelles étapes reste-t-il à franchir? Nous en parlons ce matin avec Nicolas Bourgeois, directeur adjoint du Pic du Midi et responsable du projet UNESCO. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis Bagnères-de-Bigorre et nous vous remercions de nous éclairer ce matin sur ces questions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de création de l'Observatoire du Pic du Midi?
Alors la date de création, on va parler de la date de la pose de la première pierre. C'est le 21 juillet 1878, hein, pour être précis. Mais c'est une histoire qui commence bien plus tôt et c'est celle qu'on raconte aussi dans la candidature.
Et oui, c'est celle que vous racontez parce qu'il y a eu un grand développement pendant tout ce 19e, 20e et on arrive maintenant dans le 21e siècle. C'est un lieu qui a mêlé la science et le tourisme depuis combien de temps?
Alors, depuis l'origine, puisque on parle d'un projet de savants, de scientifiques, de la communauté européenne internationale de la science du 19e siècle, et en fait, ces personnages-là, à l'époque, étaient les premiers touristes de nos vallées, qui venaient prendre les eaux à Bagnères, à Barèges et dans les différents termes des vallées jusqu'à Cauterets même. Et une partie de cette communauté, de ces personnages, de cette aristocratie, installée à Bagnères-de-Bigorre notamment, projeter à l'époque toutes les questions de la science, de la culture, des arts à Bagnères et regarder en même temps le pic du Midi. Et quelque part, cette convergence entre science et tourisme, elle est à l'origine même de la création de l'observatoire.
Et on le va voir, elle perdure et c'est ce qui permet aussi aux expériences scientifiques de continuer puisqu'elles peuvent être financées par le tourisme.
Oui, exactement. Et pour qu'un observatoire comme celui-ci soit tout d'abord pionnier, le premier en son genre à travers le monde, et que cette histoire perdure depuis 150 ans, c'est pas uniquement dû à la science tout ça, puisqu'il faut savoir que là-haut, on est sur une haute montagne, hein, ça n'a échappé à personne, une haute montagne qui affronte tout un ensemble de difficultés, notamment des difficultés logistiques, mais aussi des difficultés liées à son implantation, la neige, les tempêtes, etc. Mais aussi sur 150 ans, c'est une montagne et un observatoire qui ont traversé d'immenses difficultés qui ont été celles du monde, les guerres ou des menaces de fermeture, etc., etc. Si à la base de cet observatoire, il n'y avait pas eu les communautés locales, les bergers, les porteurs, les collectivités pour soutenir une telle initiative, le pic et son observatoire auraient été fermés quasiment dès le départ. Et c'est ça qui est très beau dans cette histoire, c'est vraiment la convergence entre des mondes qui ne se croiseraient pas normalement dans nos contextes, celle des Valéens, des communautés locales avec la grande communauté internationale et scientifique.
Et on le verra, c'est cette symbiose et ce travail commun qui permet aussi de porter ce projet du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, on peut vraiment parler de symbiose puisque depuis une trentaine d'années, il y a un format totalement nouveau qui a été créé. On peut le dire comme ça. Quand on dit que science et tourisme sont dès l'origine, c'est vrai. Quand science et tourisme deviennent une vraie stratégie de sauvetage, ça c'est plus récent et ça remonte aux années 90. Et là, ces années 90, c'est quasiment la mort de l'observatoire qui est signée. Les tutelles scientifiques de l'observatoire se détachent de ce site pour aller vers des projets plus internationaux. Et si les collectivités ne s'étaient pas mobilisées aux côtés des acteurs scientifiques de l'observatoire, le pic aurait pu ne pas voir le XXe siècle. Et l'idée qui est trouvée, c'est finalement de regarder derrière soi et de voir que le tourisme a toujours été présent sur le pic du Midi par dizaines de milliers de visiteurs et que c'est un vrai potentiel, une vraie manne financière qui pourrait répondre aux frais d'infrastructure de l'observatoire. Quand cette idée vient, encore faut-il la réaliser, la mettre en œuvre. Et c'est ce qui est le cas depuis l'an 2000, le début des années 2000 même. Et en une vingtaine d'années, ce travail de symbiose entre science et tourisme n'a fait que croître et a produit un modèle qui est presque unique en son genre, j'ai envie de dire, à travers le monde. Hein. On est toujours dans les superlatifs, mais c'est pour ça qu'on est au patrimoine mondial. Cet équilibre entre science et tourisme, pour sauver un observatoire. Le parallèle, c'est celui qu'on pourrait retrouver dans la culture, par exemple à Barcelone avec la Sagrada Familia.
Ah
C'est
oui.
réellement le tourisme qui permet de réaliser le projet de Gaudi. Bah, au pic du Midi, le visiteur, il est acteur de la continuité de l'observatoire.
Puisque vous parlez de ces recherches scientifiques, c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui se rendent à l'observatoire du Pic du Midi depuis plus de 150 ans. Quelles sont les recherches qu'ils y effectuent?
Alors, pour donner une comparaison que je trouve très juste, l'observatoire, il peut accueillir toutes les sciences qui vont à un moment donné avoir besoin de l'altitude pour progresser. Et de la même manière, en fait, que l'on peut voir à la Station spatiale internationale aujourd'hui accueillir tout un domaine, un ensemble de sciences, le Pic du Midi, c'est un peu la première Station spatiale internationale. Les scientifiques, au départ en météorologie, ensuite en astronomie, à un moment dans leur histoire, dans l'histoire des sciences et des techniques, on fait face à des murs techniques et de connaissances. Et l'observatoire du Pic du Midi s'est développé justement en proposant quelque chose de tout à fait innovant, c'est de gagner de la hauteur, de s'élever quelque part pour dépasser certaines limites. Si on devait uniquement prendre l'exemple de la météorologie, il faut se situer au milieu du 19e siècle. Cette science n'existe pas encore en tant que telle. On ne considère même pas cette thématique comme une science. Hein. Prévoir le temps qu'il fera demain, lire dans le futur, c'est pas encore de la science. Néanmoins, on a des grosses problématiques pour prévoir la météo. Ça peut causer tout un ensemble de problèmes, hein, comme on le sait, des inondations ou autres, et qu'il serait vraiment mieux de prévoir. Et à l'époque, pour améliorer les connaissances de météo, qu'est-ce que l'on fait? On monte dans des montgolfières, on s'envole à 4 000 ou 5 000 mètres dans des conditions extrêmement difficiles pour essayer de prendre des mesures et des relevés. L'idée, forcément, à ce moment-là, se précise de se dire il faudrait s'installer de manière permanente aux hautes
Eh
montagnes.
oui,
Encore faut-il, j'ai
trouver
envie
le
de
bon
dire, des
endroit.
gens assez passionnés et fous et le bon endroit pour le réaliser. Et de la même manière pour l'astronomie, on découvre, ça peut paraître étonnant, au milieu du 19e siècle, que les conditions d'observation astronomique sont bien meilleures sur des sommets isolés et donc en altitude. Pourquoi? Puisque on est plus haut dans l'atmosphère, les vents et les turbulences peuvent être moindres et on a une épaisseur d'atmosphère également qui est plus ténue et qui permet une qualité d'observation extraordinaire. Et il faut le savoir, le Pic du Midi fait partie de ces lieux dans le monde, son sommet, où les conditions d'observation astronomique, évidemment lorsqu'il fait beau, sont parmi les meilleures du monde.
Oui.
Donc, on l'a compris, toutes les sciences intéressées par l'altitude et qui peuvent dépasser d'une certaine manière leur état de connaissance actuel peuvent arriver et s'installer sur le sommet du Pic du Midi.
D'autant plus que, puisque vous parliez aussi de cet engagement des collectivités, il y a avec les scientifiques le soutien de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, qui est partenaire. Et ça aussi, ça permet de faire un lien entre les recherches sur le Pic du Midi et puis le plancher des vaches, si on peut dire.
Oui, alors là, c'est très important ce que vous évoquez ici. Quand on parle de cette symbiose entre la science et le tourisme, au sommet, on revient en fait aux acteurs directement du sommet. Et ces acteurs au sommet, on va retrouver l'Université Toulouse 3, hein, qui est affectataire de l'observatoire pour le compte de l'État, puisque cet observatoire est une propriété nationale, c'est une propriété de l'État. Et ensuite, à leur côté, le syndicat mixte pour la valorisation du Pic du Midi, qui depuis le milieu des années 90 est la structure, la collectivité qui a été construite, créée et fondée par les acteurs locaux pour mettre en œuvre cette stratégie de valorisation. Et ces deux entités, le syndicat mixte de la valorisation du Pic et l'Université Toulouse 3, ont aujourd'hui créé une structure dédiée à la candidature au patrimoine mondial qui s'appelle un groupement d'intérêt public. Donc aujourd'hui, ce groupement d'intérêt public, c'est la fusion quelque part de l'université, des collectivités, donc notre plancher des vaches, si on pourrait le dire comme ça, au sein d'une même structure pour réaliser ce projet fou de la candidature au patrimoine mondial. C'est une continuité de l'histoire et qui est encore plus belle quand on considère qu'il y a 20 ans, le pic aurait pu être fermé.
Eh oui, c'est ça. Et justement, vous parlez de cette candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, Nicolas Bourgeois. Qu'est-ce qui a motivé à déposer un dossier pour le Pic du Midi?
Alors, la motivation première, c'est l'histoire de l'observatoire où on sait que depuis 150 ans, les menaces de
Oui.
fermeture se sont répétées et que ces menaces de fermeture, à tout moment, peuvent revenir. Et il était inacceptable pour les nouvelles générations qui arrivaient sur l'observatoire, j'ai envie de vous dire, et pour quelques acteurs passionnés par ce site, de voir à nouveau ces menaces de fermeture se renouveler.
Donc c'est pour le
Quel meilleur
protéger, en
moyen
fait.
que d'aller, voilà, pour le protéger? Et quel meilleur moyen? Le patrimoine mondial. Une fois que cette idée émerge autour de 2012, c'est la première fois qu'on ose penser à quelque chose comme ça. Démarre seulement le projet de la construction d'une candidature à la hauteur. Et là, en fait, rien n'est garanti. N'est pas patrimoine mondial qui veut. Le patrimoine mondial ne se décrète pas. Il se construit. Et là, ce sont près de 10 années qui vont se succéder pour en arriver là où nous en sommes.
Alors, si on prend cette première, enfin, une des étapes, la dernière en avril 2024, le Comité français du patrimoine mondial, dans sa première audition, a donné quand même un avis favorable à cette valeur universelle exceptionnelle du pic du Midi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles en sont les raisons?
Alors, peut-être repréciser juste le cheminement d'une candidature. Quand on dit que ça prend très longtemps, c'est généralement complexe. Et moi-même, il y a encore quelques années, j'ignorais totalement comment tout ça fonctionnait. Quand on candidate au patrimoine mondial, il faut comprendre que c'est l'État lui-même qui candidate. Donc, pour commencer le parcours d'accompagnement d'une candidature, il faut être reçu sur ce qu'on appelle la liste indicative de l'État français. C'est en fait l'État lui-même qui regarde sur la France les biens potentiels qu'il peut un jour faire candidater à l'UNESCO. Donc, ce portefeuille de biens, quelque part, s'appelle la liste indicative et c'est comme l'antichambre du démarrage de la candidature au patrimoine mondial. Une fois qu'on est reçu sur liste indicative, ce qui est loin, très loin d'être
Oui, ce qui n'est
évident
pas
au
forcément
départ,
évident.
puisqu'en plus en France, c'est un secret pour personne, on est vraiment un pays enfant gâté du patrimoine. Une fois qu'on est sur liste indicative, là on rentre dans une phase d'accompagnement par le Comité français du patrimoine mondial. Et l'audition à laquelle vous faites référence, c'était la première audition d'une séquence de trois en fait, hein, qui elle évaluait la valeur universelle exceptionnelle. Donc qu'est-ce qu'est la valeur universelle exceptionnelle? C'est, on va le dire, tout simplement, c'est le cœur d'une candidature. Une valeur universelle exceptionnelle, ce sont les qualités patrimoniales d'un bien, donc un bien candidat, qui renvoient à des éléments universels. Donc vraiment qui
Par
renvoient à
exemple.
toute l'humanité, à des éléments vraiment très forts dans l'humanité. En l'occurrence ici, le rapport à la nature, l'interaction entre les communautés pour produire une œuvre plus grande qu'elle, etc. Et le deuxième point d'une valeur universelle, c'est en quoi cette valeur apporte quelque chose de nouveau également au patrimoine mondial. Donc ce n'est pas, j'ai envie de dire, du régionalisme ou une sorte de fierté locale ou bigourdane, c'est vraiment, en gros, des valeurs qui ont une connotation et une résonance à échelle du monde entier. Donc, quelque part, ce que l'on a dans notre vallée, ce que l'on a au fond de notre jardin, ce pic du Midi, c'est cette dimension-là dont on parle. Et cette valeur universelle exceptionnelle, c'est celle que nous avons défendue lors de cette audition et qui a été reçue de manière très favorable, puisque là, on a porté quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde du patrimoine mondial avec ce paysage culturel, ce patrimoine scientifique.
Donc après, il y aura une deuxième audition qui, si je ne me trompe pas, aura lieu le 15 octobre. Elle va porter sur les périmètres et les protections du bien. Là, en deux mots, Nicolas Bourgeois, vous pouvez juste nous expliquer la spécificité de cette étape?
Oui, alors quand on propose un bien, ça c'est important de le préciser, ce n'est pas uniquement un bâti ou un élément très ciblé dans le territoire, c'est un périmètre, un espace. Et cet espace, pour être constitué, là on va le dire vraiment de manière très synthétique, il doit contenir tous les éléments qui expriment la valeur universelle exceptionnelle. Donc ici, ça va être des éléments bâtis, ça va être des éléments paysagers ou ça va même être des éléments immatériel ou traditionnel. Donc, dans les éléments bâtis, on va retrouver évidemment les infrastructures sommitales de l'observatoire, ses constructions annexes avec l'hôtellerie des Laquais, de Sancourt, tous les éléments logistiques jusqu'au chemin des porteurs. Ensuite, on va retrouver les éléments paysagers qui racontent dans le paysage l'histoire du pic du Midi. Donc, les vallons pastoraux du Val d'Arrise, du vallon d'Ancé, cette montagne sauvage que l'on peut retrouver au nord et qu'on voit d'ailleurs très bien depuis les vallées des Gaves également. Et ensuite, des attributs immatériels, c'est là des traditions comme cette convergence entre la science et le tourisme, cette tradition des porteurs, etc. Et tout ça est dans un périmètre ciblé autour de l'observatoire et les lignes de crête environnantes. Et également entouré d'une zone tampon. Donc là, on est vraiment dans la technicité comme un espace protégé, où cette zone tampon reprend les périmètres de sites classés déjà existants, donc des protections déjà existantes. On ne crée pas de nouvelles protections. Et ça va permettre de mettre en œuvre des dynamiques de développement durable tout autour de l'observatoire, On sait qu'une inscription au patrimoine mondial, ça génère des transformations, voire même des révolutions dans certains endroits, notamment de la fréquentation touristique, etc. Et ça, c'est autant une opportunité qu'un enjeu à prendre en compte pour bien développer nos territoires.
Alors, on reviendra évidemment vers vous, puisque après, il y aura une troisième et une dernière audition, et puis après, ce sera l'examen de la candidature par l'UNESCO elle-même. Et donc, tout ça, ça va nous mener quand même au moins pendant, on va dire, 18 mois ou 2 ans. Donc, voilà, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles, Nicolas Bourgeois. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous et vous êtes le directeur adjoint du Pic du Midi, responsable de ce projet d'inscription du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup.
Merci.